Nous sommes tous déjà un peu des urbains numériques. Après avoir réservé sa place de train par Internet, nous vérifions tranquillement à 300 à l'heure si un Vélib sera disponible devant la gare et prévenons que nous arrivons après avoir envoyé notre travail d'un simple clic, un usage quotidien parmi bien d'autres de la ville 2.0 qui laisse de ce fait le temps. C'est alors une question de comportement, de bavarder avec notre voisin de voyage. C'est l'une des évidences du nouveau visage de la ville 2.0. Les TIC, les nouvelles technologies de communication, ne devraient pas transformer l'individu en robot, mais au contraire, lui permettre de se réhumaniser. Claudie Aigneret, présidente de ce 4e forum annuel d'éthique organisé par le Comité 21.
Aujourd'hui, on a la possibilité, avec ces nouvelles technologies, avec tout ce qui est le numérique, la possibilité d'avoir du collaboratif, une intelligence un petit peu collective et de récupérer des données, de les remettre en sens, traiter des problèmes d'une façon différente. Et ces problèmes liés à une croissance qui doit être durable nécessitent effectivement d'aller collecter les informations, de les partager surtout avec ces nouvelles technologies. C'est de l'innovation bien comprise. Et ce que je dis moi aussi beaucoup, c'est qu'il faut une forme de pédagogie pour s'approprier ces innovations et puis faire en sorte que ce ne soit pas simplement une entreprise innovante qui essaie de promouvoir quelque chose. Il faut vraiment que chacun le comprenne et que ce soit dans un écosystème que tout cela avance.
C'est aujourd'hui que nous entrons dans le 21e siècle. Le modèle n'en est donc fort heureusement pas la cité idéale, mais bien le lien avec le développement durable. Pour Gilles Béraud, fondateur de ce forum et lui-même très précurseur des TIC dans sa propre vie, c'est l'occasion de relier les deux.
La transformation numérique, notre monde, est extrêmement rapide. On est passé à 5 milliards de téléphones portables, à 2 milliards de PC connectés et on va aller très très vite dans quelques années à 5 milliards de smartphones. Moi je crois beaucoup depuis très longtemps à ces questions de TIC. C'est vrai que ça m'intéresse à titre personnel. J'ai créé en 86 un site Minitel professionnel sur la musique. J'ai fait des réseaux de bornes interactives, des choses comme ça. Et là, j'ai compris à 6-7 ans maintenant qu'il y avait quelque chose qui se jouait entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'abord, on a besoin de faire se rencontrer ceux qui croient à un avenir meilleur pour l'humanité. C'est-à-dire ces gens qui imaginent un monde numérique, y compris de science-fiction, etc., croient que ça peut être mieux encore avec plus de technologie. Et ceux qui défendent le développement durable, ils croient aussi à ça. Donc pourquoi ne pas croiser les analyses et se dire que ceux qui portent le développement numérique du monde et ceux qui s'engagent pour le développement durable ont des choses à se raconter.
Comment l'innovation numérique va-t-elle permettre de faire évoluer nos usages et de bouleverser les comportements dans la ville durable? C'était le thème de la première table ronde de ce forum pour Richard Collin, président de Green and Connected Cities. Nous sommes passés de la ville foire à la ville industrielle et aujourd'hui nous passons à la ville numérique, une métamorphose de la même ampleur que la révolution industrielle. Selon l'OCDE par exemple, la moitié des emplois seront des emplois dits tacite de mise à disposition et surtout de mise en cohérence de l'information. Exemple, la ville de Montpellier, elle a reçu le Grand Prix 2011 de la croissance verte numérique décerné dans le cadre de ce forum. Hélène Mondroux, maire de Montpellier.
C'est une reconnaissance de la politique que nous menons, j'allais dire, depuis les années 2000. Puisque dès l'année 2000, nous avions décidé, nous avions programmé de câbler notre ville en fibre optique. Montpellier sera intégralement câblée fin 2013. Vous savez, c'est une ville essentiellement universitaire. Et nous avions compris tout l'intérêt du numérique, ne serait-ce que pour permettre de communiquer de façon plus efficace, tout en diminuant des transports parfois inutiles. C'est le début de la démarche. Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu en fait que ce numérique était un outil surtout magnifique pour permettre aux citoyens de mieux communiquer, de mieux connaître, de mieux savoir, de mieux s'informer. Et c'est devenu donc un élément de citoyenneté.
Nous n'allons plus chercher l'eau au puits, c'est le monde qui arrive à nous, à notre robinet. Dans cette ville, cet espace de vie qui ne sera pas un conglomérat de souris, même relié mais isolé, mais bien un écosystème. Exemple majeur de cet écosystème, l'écosystème numérique soi-même. Pas la peine de stocker chacun dans son coin des données. Bienvenue au cloud computing, le nuage informatique. Gabrielle Gauthier, vice-présidente d'Alcatel-Lucent.
Ce petit cube est une antenne. L'antenne du futur, des réseaux du futur, à la fois c'est un émetteur radio, mais qui doit être combiné, c'est un réseau dans le cloud, c'est-à-dire ça, l'intelligence, l'alimentation, qui d'habitude est au bas du pylône, qui prend beaucoup d'emplacement, qui consomme beaucoup d'énergie, est déportée dans le cloud. Donc nous utilisons la technologie cloud pour faire marcher ces petites antennes que l'on pourra en fait accrocher aux abribus et qui permettra de densifier et d'intensifier les réseaux télécoms demain pour faire face à l'explosion en fait, des données. Voilà. Alors, à la fois, donc, ça combine esthétisme, ça réduit la consommation d'énergie des réseaux de 50%. Évidemment, ça se fait avec des technologies du cloud.
La ville, synonyme de transport, le déplacement, le nœud gordien de la ville. La France est en train de rattraper son retard en matière de télétravail, soulignait Gilles Béraud, et cela n'est pas étranger au transport. Et l'Europe a l'un des marchés de la mobilité le plus solvable au monde, soulignait de son côté Bernard Hamou, délégué aux usages Internet au ministère de l'Enseignement supérieur. Georges Amar, ancien directeur de la prospective de la RATP, a une vision résolument visionnaire. À partir du moment où un quai de gare ou bien un quai de métro n'est plus un lieu d'attente, tout sauf une salle des pas perdus, le véritable transport de demain, eh bien, c'est le corps humain. Le corps humain qui, de ce fait, se transporte d'un usage possible à un autre, qu'importe après tout si l'on travaille, téléphone, se distrait dans une gare ou bien dans un train, puisqu'on le fait vraiment. Et sans plus attendre d'être là où il faut pour cela, puisque tout comme le puits, eh bien, le lieu est venu à nous. De fait, pour Eang Ang Ong, responsable ville connectée d'IBM, la gare est l'une des clés de la ville de demain.
Pour moi, la gare, c'est l'objet rêvé pour justement développer, illustrer le développement durable. C'est autour de la gare qu'on rencontre toute la mixité fonctionnelle et toute la mixité sociale. C'est vraiment un hub de rencontre, de connexion. C'est l'endroit où les gens qui vivent ailleurs de la gare se rencontrent autour de la gare. Mais c'est aussi le hub de services, tout domaine confondu. Et c'est aussi un hub d'énergétique, parce que dans la gare, c'est là où on consomme de l'énergie. Aussi, la gare, c'est un endroit où on produit l'énergie aussi. Mais surtout, la gare, c'est aussi l'endroit où on peut pousser justement le changement de mode de transport pour justement favoriser le mode doux et maximiser le transport avec le mode doux, parce que c'est aussi le hub multimodal. C'est là où se connectent les modes de transport. Et c'est pour ça, c'est le lieu rêvé pour faire vivre tout ce monde autour de cet objet gare qui est l'objet de connexion.
Longtemps en France, en tous les cas, l'innovation technologique a été synonyme d'invention technologique, soulignait Marc Mosset, le directeur du développement durable de Microsoft. Autrement dit, l'homme a ici et là été au service du progrès. L'évidence, s'il n'y a pas de scénario obligatoire, est que la ville de demain sera faite de clouding computing, la mutualisation de l'informatique donc, et de l'informatique au service de l'utilisation intelligente de l'énergie. Gilles Vermeaud-Desroches, directeur du développement durable de Schneider Electric.
L'effacement, c'est de repérer un certain nombre d'équipements très consommateurs qui pourraient, sans trop de difficultés, au moment où monte la consommation, mettre en veille ces équipements qui fonctionnent que 1000 heures, c'est-à-dire qui sont très peu rentables. Et puis, c'est aussi en général de l'énergie, de l'électricité qui vient du gaz ou du charbon, du gaz en France. Et cette électricité-là est beaucoup plus carbonée. Et donc, l'effacement, c'est essayer d'être plus intelligent pour, de manière générale, consommer à peu près toujours pareil. Ça peut avoir des conséquences dans le résidentiel, chez vous, chez moi. Par exemple, probablement que dans l'avenir, on dira plus, par exemple, à sa machine à laver ou à machine à laver la vaisselle. Il faut te lancer dans 1 heure ou dans 2 heures ou dans 3 heures. Mais on dira, je veux ma vaisselle ou mon linge à 8 heures du matin. Et l'opérateur énergétique donnera un signal pour le moment où c'est le mieux pour lui par rapport à la production et à la consommation de lancer l'équipement.
Autre domaine d'intelligence, et cela n'est pas négligeable au regard de la ville, la santé de l'être humain. Au stade du laboratoire, Scanadoo permettra de détecter un problème de santé à partir de son téléphone portable. En France, les radios IRM médicales représentent un stock insoupçonné, alors qu'elles ne circulent pas toujours au moment où il le faut, d'un médecin à l'autre. Orange vient de développer pour l'Île-de-France le projet Région sans film, une efficace dématérialisation en réseau.
L'intérêt déjà pour les établissements, c'était de mettre en place ces systèmes d'imagerie numérique qui permettaient de dématérialiser le film et le CD. Les établissements croulent sous des productions de films et de CD qu'ils n'arrivent plus à gérer. Ça pose aussi des problèmes puisqu'on les perd ou on les confie aux patients qui ne reviennent pas avec. Donc on est obligé de refaire les examens. On a des problèmes quand on veut les diffuser, les partager entre plusieurs endroits, mais quand il n'y a qu'un seul support, ce n'est pas possible. Le premier intérêt, c'était de numériser ça et de mettre en place des systèmes, ce qu'on appelle des PACS, des systèmes de partage d'images numériques dans l'établissement qui permet aussi de le diffuser vers tous les professionnels de santé. Mais au-delà de ça, comme on a eu une solution qu'on a voulu externaliser, héberger par un industriel, donc par Orange en l'occurrence, qui a remporté ce marché, eh bien, on a voulu mettre en place des mécanismes de partage, puisqu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de démographie médicale. Donc, il y a de moins en moins d'experts, où il y a des pathologies de plus en plus compliquées à identifier. Et donc, ces examens peuvent être mis à disposition de différents experts pour pouvoir être analysés, expertisés, donc apporter une meilleure cohérence sur l'offre de soins qui est donnée vers le patient.
Ville plus intelligente, ville en écosystème, EcoVadis a développé une plateforme d'évaluation environnementale et sociale des grands fournisseurs, depuis l'émission de CO2 jusqu'au travail des enfants.
EcoVadis, on fait de l'évaluation performance développement durable de la chaîne d'approvisionnement de nos clients, donc des grands comptes partout dans le monde qui ont des milliers de fournisseurs éparpillés dans le monde, et on va évaluer pour chaque fournisseur quelle est la performance environnementale et sociale de ces fournisseurs.
L'évidence, s'il n'y a pas de scénario préconçu de cette ville de demain, l'être humain n'en sera jamais très éloigné. Le changement de comportement, ce n'est plus seulement imprimer plus vite, mais bien imprimer sa marque au changement voulu. Ils sont le coup de cœur de ce prix des meilleures innovations 2011 pour la croissance verte numérique, les Ateliers du Bocage. Bernard Haru, directeur des Ateliers du Bocage.
Ateliers du Bocage est une entreprise d'insertion. Donc son objectif est de créer des emplois pour les personnes en difficulté. Le support de toutes ces créations d'emplois, c'est le recyclage et surtout le réemploi. Dans un premier temps, on l'a fait sur des déchets type carton, papier, palette. Et aujourd'hui, on est surtout les déchets des nouvelles technologies, ou plutôt le réemploi des nouvelles technologies, ordinateurs, téléphones portables, cartouches d'imprimante. On a créé 240 emplois sur ces domaines du recyclage des produits technologiques. Le prix a particulièrement voulu récompenser des actions que nous menons en Afrique pour lutter contre la fracture numérique, créer des emplois en Afrique et lutter contre les pollutions qui deviennent absolument dramatiques liées aux importations des déchets numériques.
La ville qui se dessine a un premier contour résolument humain. La contrainte énergétique autant que les nouvelles technologies, alliées aux choix politiques et aux arbitrages financiers en ce sens, sont donc totalement matière à progrès. À certains égards, la civilisation a rendu sauvage. Confère, ainsi que le rappelait Bettina Laville, l'étrange état de détresse quand on perd son téléphone portable, comme si l'on perdait quelqu'un. À aucun moment, au cours de ce forum, et en présence pourtant de grandes entreprises, le mot de valeur ne s'est vu affublé du terme de spéculatif, plutôt bon signe.